9h dans le bureau de Par Jupiter.
Charline.
Oui.
Tu peux arrêter avec ce bruit là-bas.
Mais quoi, je mange des amandes pour mon petit-déj alors.
Et Guillaume, c'est voilà. Insupportable. Non, mais non. Mais il y a un boucan dans cette baraque.
Mais quoi, mais on travaille, ça va.
Oui, oui, d'accord. Mais moi, je suis un peu misophone.
Miso, alors... c'est comme la soupe, c'est ça.
Ah, non, misophone. C'est quelqu'un qui supporte pas bien le bruit des autres. Ah. Comme de ses collègues, par exemple.
D'accord.
Voilà. Qui fait ça?
Non, c'est pas moi.
C'est personne. Et bientôt, il y en a un qui va passer à l'aspirateur, c'est ça?
Ah, mais c'est une bonne idée, tiens, Charline, tu t'en occupes?
Oh, misogyne!
Misophone! Oh. Alors, regardez, il y a une étude très sérieuse qui dit que un Français sur deux ne supporte plus le bruit de l'open space.
Oui, bah voilà. Ça, c'est pas grave, nous, on est belges.
Mais non, mais ça, c'est le confinement, ça nous a fait beaucoup de mal, on a perdu l'habitude de fréquenter les autres.
Exact. Le confinement, ce bon vieux temps, oui.
On est quand même mieux tous ensemble. Hein.
Ouais, non, à partager nos miasmes sonores, c'est ça?
Misanthrope.
Misophone, ok? Hein? Mais c'est pas bientôt fini ce boucan!
Mais pardon, j'étais juste en train de me faire un café.
Mais encore un seul bruit. Et moi, je retourne en télétravail.
Oh,
voilà.
Attendez, Alex a raison, mais arrête! Non, mais ça suffit, allez, au boulot et je vais entendre les mouches voler, ok?
Oh non.
Ah oui, t'aimes pas les mouches? Mouchophobe?
Misophone.
Inter et bienvenue sur la chaîne de montage de la blague et la magie de la rigolade.
Bien sûr.
Voici la devise du jour. Il ne faut jamais dire Fontaine. Je ne reviendrai pas chez les Républicains. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
En voilà un beau classique pour les pitchounes. Splendeur et misère des courtisanes de Balzac.
Ah oui, d'accord.
Qui va donc entraîner nos jeunes auditeurs dans les bas-fonds de la société.
Est-ce que vous me parlez pour une prostituée, bougre abruti?
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Votre altruisme vous pousse chaque jour dans la rue à la rencontre de l'autre et à lui porter la contradiction.
Oui, c'est parce que j'aime l'argent aussi, hein. Ça joue quand même dans la balance. Alors, je vais vous parler travail aujourd'hui, justement, les pitchounes. Entre les déclarations de Macron et Pannier-Runacher, qu'est-ce qu'il veut, le Français?
Il veut le 35 heures, il veut le RTT, il veut tout ce que les employés de France Inter ont. Hein.
Hashtag ma redevance.
Et comme tous les mercredis, une Jupy Masterclass de cinéma sera dispensée par Arthur Juniau. Bonjour Arthur.
Mais bonjour.
Vous avez choisi de partager avec nos auditeurs un film générationnel sorti en 84, Gremlins, ces petites créatures malfaisantes qui rencontrèrent un succès international.
On est des méchants interplanétaire. On a dit pas de compromission, surtout pas avec le monde corrompu les enfants.
Et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et à nos côtés, Alex Vizorek.
Oui. À vos côtés, systématiquement, Charline Vanhoenacker, je vous présente le reste de l'équipe. Elle est venue une fois, puis elle est revenue de Bruxelles une fois. Et là, elle revient une deuxième fois. Elle passe donc un cap, c'est Laurence Dupont. Bonjour.
Vous savez que c'est ma troisième fois.
Mais je sais, mais donc du coup, c'est le retour deux fois, vous voyez.
Deux fois, une fois,
voilà.
Ça fait trois.
Ouais, exactement. De quoi elle va parler?
De fond de panier.
Très bien. Je compte sur vous. L'homme qui se cache derrière sa guitare, au propre comme au figuré, car il est bâti comme un ukulélé, c'est Frédéric Fromet. Bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi allez-vous nous chanter?
Je crois qu'on va plus ou moins fêter l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman.
Oh bah dites donc, soyez, vous attendez. Autre chroniqueuse, autre instrument, celle qui essaye de nous apprendre la musique de manière peu classique, c'est Marina Chiche. Bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Alors, pas de violon aujourd'hui, mais je vais vous parler d'un instrument à bretelles. Tout à fait votre genre.
Tiens. Ajoutez à cela un journal qui jette l'opprobre, des exercices jamais sobres et un dessin ultra sobre. Ouais. Vous obtenez une émission parfaite pour un 13 octobre.
Oh là là, attendez. Ça, c'est une rime pauvre, ça.
Oui, il y a deux fois sobre. C'est ce qu'il y a que trois mots dans la langue française qui riment avec octobre. C'est sobre, opprobre et calobre. C'est une blouse que porterait Chartier et c'est très difficile de le placer.
Très bien. Bah, vous auriez pu essayer.
J'aurais pu. Un dessin très sobre, calobre.
Voilà. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiter Class.
Au boulot.
Même Francis Cabrel, dans la chanson Octobre, il n'a pas fait rimer le mot. C'est vous dire si c'était compliqué.
Si les Français s'y arrivent pas,
c'est ce que
a priori, nous, on arrive derrière.
Et oui, voilà. Bienvenue chez les têtes à claques, Arthur Juniau, qui est avec nous aujourd'hui. Arthur, vous allez donc nous parler d'un de vos films préférés à la fin de cette émission. Mais avant, je voudrais signaler que vous avez écrit et mis en scène la pièce intitulée Saint-Exupéry, le mystère de l'aviateur, qui se joue en ce moment au théâtre du Splendide. Arthur Juniau, Saint-Exupéry, le mystère de l'aviateur. Donc là, on n'est pas sur l'écrivain, sur un mystère. Quel mystère, en fait ?
On est sur l'aventurier, ouais. en fait, parce que ce qu'on voulait faire avec Flavie Perron, parce que j'ai co-écrit la pièce, je l'ai mis en scène, on est parti, en fait, de l'anecdote... De la gourmette, la fameuse anecdote de la gourmette, c'est-à-dire que c'est en 98, donc longtemps, 50 ans après sa disparition en mer, personne savait où il avait vraiment disparu. Est-ce qu'il y a eu plein d'hypothèses autour de sa mort? Est-ce qu'il s'était suicidé? Est-ce qu'il s'était fait tirer dessus par les Allemands? Est-ce qu'il était parti avec une maîtresse parce que c'était un homme frivole? Est-ce qu'il y avait même une... est-ce qu'il s'était scratché en mer mais que les Allemands avaient retrouvé, l'avaient torturé? Enfin, il y a eu plein d'hypothèses. Et 50 ans après sa disparition, il y a un pêcheur au large de Marseille qui récupère dans son filet de pêche une gourmette avec écrit Antoine de Saint-Exupéry. Alors déjà ça, tu peux déjà faire une pièce que sur ça, tellement c'est improbable. Mais grâce à cette gourmette, il retrouve l'avion, donc l'épave qui s'est abîmée en mer. Grâce à cette épave, il retrouve avec les homologues allemands la personne qui a tiré sur cet avion. Ils vont le voir et tout d'un coup ils disent bah désolé, je crois a priori vous avez tiré sur l'avion de Antoine Saint-Exupéry. Là, cet Allemand fond en larmes, il dit c'est pas possible, le Petit Prince c'est mon livre de chevet. Il fait une conférence de presse, il dit si j'avais su, j'aurais pas tiré. Et il est allé jusqu'à trouver les héritiers. Les successeurs d'Antoine de Saint-Exupéry pour leur demander le pardon avant qu'il puisse lui partir. D'accord. Voilà, donc ça c'est une histoire vraie. Donc déjà on se dit bah est-ce qu'il y a besoin d'écrire une pièce tellement il y a tout.
Mais oui, bien sûr.
Et à partir de là avec Flavie voilà, on a écrit une pièce d'aventure pour raconter tout ce qui s'est passé dans sa vie parce que sa vie est incroyable.
Flavie Péan, donc qui joue également dans la pièce également. Avec David Sardou notamment. Mise en scène d'Arthur Juniot, ça s'appelle Le mystère de l'aviateur, au théâtre du Splendide. Mercredi au vendredi à 21h.
Samedi aussi.
Le samedi aussi, voilà, vous jouez deux fois le samedi.
Tout à fait. Enfin, c'est pas moi, moi je c'est
oui,
moi,
oui.
C'est les acteurs.
Ah, oui, bien sûr. Arthur Juniot avec nous pour ce Par Jupiclas. Et voici à présent notre nafteuse, car elle fait la navette entre Bruxelles et la maison de la radio, ses archives sous le bras. Voici Laurence Bibot.
Bonjour Charlie, bonjour Alex, bonjour les petits camarades, parfois amusants de Par Jupiter. Je me présente Odette Mercat des fonds de panier Reblochon, réserviste de Madame Bibot. Alors j'étais jusqu'ici sur le banc et cet après-midi je monte sur le terrain. Voilà, je n'irai pas plus loin dans l'utilisation d'un vocabulaire de football. Je ne suis pas ici pour humilier. Non. Nos amis les petits belges, je suis... ici pour rétablir. Alors, Laurence Bibot, Rochambourg, tais-toi, ayant malencontreusement, elle a raté son train reliant notre belle ville de Paris, ville lumière, Paris, une fête, oh, les petites villes de Paris, à cette ville un peu morne, grise, rappelez-moi son nom, ceci n'est pas une pipe, Bruxelles, voilà. Alors, comme elle n'est pas là, Rochambourg, tais-toi. Écoute, moi, j'ai trouvé important, en tant que prêtresse, de prendre sa place au en tant que belge, elle avait pris la note. Dois-je rappeler que cette radio, jusqu'à preuve du contraire, ne s'appelle pas Belgique Inter. Voilà. Donc je reprends la Belgique, les reines du pays. Oh, c'est amusant, les reines du pays. Reines, non, mais c'est s'ils ont encore une reine. Ben oui, voilà, vous avez compris. Vous. Mais voilà. Mais c'est amusant. Eh bien, tant mieux, parce que moi j'aime encore bien le jeu de mots. Alors je dis, oui, bon, voilà, c'est pas du Pastureau, c'est pas du Maurice, mais j'aime bien. J'aime bien. Moi j'aime bien l'humour avec une petite patine qui sent un peu la croûte, l'humour d'antan. Hein, et figurez-vous qu'en cela, je ne me sens pas si éloignée de Monsieur Vozirek. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas touché au concept de cette petite chronique. Mais bon, c'est une petite chronique qui se tient, c'est pas non plus du Drouel. Fabrice Drouel, non mais c'est parce que vous faites des têtes. Ah, vous faites tout le temps des têtes. Bien, alors. En revanche, ça, j'aime toujours bien dire, en revanche, pour le coup, par ailleurs, voilà, j'ai tout lancé. Si j'ai bien été pioché dans les archives belges, ici je vous le dis tout de suite, pas d'accent, pas de pittoresque, pas de surréalisme, mais du sacré! Alors, j'ai décidé, cet après-midi, j'ai décidé de convoquer le général de Gaulle. On arrête de rire. Et moi, la première, ben, ça m'est mieux toujours. Ah oui, bon, excusez-moi, mais de Gaulle, pas touche. Ah oui, je vois que je vous ai quand même cueilli, hein, mes cocos. Et quand je dis coco, ce n'est pas de la noix dont je veux parler, mais bien de vos orientations. D'ailleurs, c'est assez étonnant que vous soyez encore dans ce studio et pas en train de faire la grève. Enfin, est-ce qu'on fait la grève? Je pose la question. Je vois bien qu'on est ici entre camarades. Hein. Le rouge des murs, c'est peut-être pas que le fruit du hasard. Bien. Alors, mais les gens ne sont dupes de rien, madame Vanina Kerr. Les gens sont nuls de rien. Alors, je vois qu'en tout cas, on n'aime pas trop l'ordre ici. Et ce n'est pas le triste spectacle de votre bureau, madame Vanhoenacker, qui me prouvera le contraire. La tradition, c'est pas ce qui vous étouffe. Bien. Alors, patrimoine français, ça vous dit peut-être quelque chose? Le 9 novembre 70. Hein, ça finit par rentrer, hein? Je vous ai tué le contexte de l'archive. Nous sommes quelques jours après la mort du général. On suit toujours parmi là. Nous sommes à Colombey, les deux églises. Ah bah oui, à Colombey, ils avaient deux églises. Bah, bah oui, bah, ça veut dire quand même deux fois plus de paroissiens, deux fois plus de curés, deux fois plus... bien. Alors, soyez attentifs, surtout vous, madame Vanhoenacker, soyez attentifs aux commentaires, que dis-je, à l'éloge chatoyante de Luc Beyer, une plume de la RTB, un journaliste de télévision belge, le Léon Zitrone de l'époque, qui fait largement passer Stéphane Bern pour un sobre. Alors voilà, n'hésitez pas à fermer les yeux parce que c'est joli, joli, mais un peu difficile à comprendre. Ouais.
Il y a ces heures-ci deux Colombais. Un Colombais paisible, rural, resserré, renfermé sur un chagrin taciturne, le Colombais des Colombéens. L'autre Colombais, c'est celui des journalistes, le nôtre. Celui des mystères très simples de la vie et de la mort, que nous tentons de deviner derrière les murs et les fenêtres de la boisserie, que l'on distingue blotti dans les hautes futaies qui l'entourent. C'est là que le général de Gaulle a vécu. Ce sont les vastes horizons dégagés jusqu'à la forêt des Duits, qui jusqu'aux dernières heures alimentaient, nourrissaient, comme l'a dit un écrivain, la noble verve du mémorialiste.
Voilà. Ah non, j'ai pas dit que c'était drôle, voilà. Mais pour moi, la noble verve de mémorialiste, ça a l'air de vous laisser de marbre, bien moi pas, voilà. La verve du mémorialiste, mais bon, ça me touche. Alors, ben écoutez, tais-toi. Voilà, je vais vous laisser ici et vous laisser vous amuser entre vous.
Merci, madame Duc.
Alors, Odette Mercadet, fond de panier Reblochon.
Merci, merci. Et rendez-nous Laurence Bibot. Merci Laurence Bibot. Je devais faire pipi.
Oui, bah c'est
C'est pire, non. Je vais devoir me retenir pendant une heure. Je ne vous dis pas merci Laurence.
We'll be right back. anciennement un titre de la playlist France Inter qui est devenu un tube. Ça arrive, bah oui, c'est bah des choses qui arrivent.
Très rarement quand même. Hein. Ouais. On va pas
vous
se mentir.
Écoutez, c'est vraiment... par Jupiclass en compagnie notamment d'Arthur Junio qu'on attend pour la Jupi Masterclass de cinéma. Et en oui. attendant, l'information.
Ça c'est sûr.
Je n'aime pas voir l'école courir après l'actualité.
Le journal de presque 17h17.
Pas de problème, tout va bien sur France Inter. Voilà. Non mais c'est formidable, je vous dis. Ce sont des gens qui font de la propagande avec votre argent. C'est ça, France Inter.
On commence par les titres.
Oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale de prévention des catastrophes.
Emmanuel Macron va être réélu, c'est sûr.
Ben voilà, et je vous aurais prévenu.
Olivier Véran a annoncé qu'environ 15 000 soignants ne s'étaient pas fait vacciner.
Oui, quand il a annoncé ça, on a senti qu'il était un peu agacé, à deux doigts de demander aux Français de se mettre tous les soirs à 20h à leur fenêtre pour huer les soignants.
Et les brèves ?
Toujours pas de vaccin contre les brèves, malheureusement, ouais, Charlie. On cherche.
Ça avance pas vite, la recherche.
Non. Je suis pas dessus, hein, pour vous mentir. Commençons par le nouveau livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, paru ce mercredi, qui traite des dessous du quinquennat Emmanuel Macron, le traître et le néant.
Oui, on y apprend qu'un jour, le chien de François Hollande a mangé les lunettes de Brigitte Macron, et qu'elle a ensuite envoyé la facture à François Hollande.
Voilà. Visiblement, chez les Macron, il n'y a pas de petites économies. Sauf quand il s'agit de changer la vaisselle de l'Élysée.
On apprend aussi que lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, François Bayrou a failli en venir aux mains avec Richard Ferrand.
Bayrou-Ferrand, les Boubacaris du centre droit.
À droite, Valérie Pécresse, oui. C'était la matinale de CNews.
Je suis une des adversaires qu'Emmanuel Macron redoute le plus.
Je sais pas si je peux faire une vanne. J'en avais écrit une, mais en fait, je me rends compte que ça passe très bien toute seule.
Voilà, allez, on enchaîne. Oui. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand lui a affirmé qu'il ne comptait pas reprendre sa carte chez les Républicains pour le congrès du parti.
Eh oui, Xavier Bertrand, on dirait un divorcé qui accepte de recoucher avec son ex, mais qui prévient, je ne viendrai pas réhabiter avec toi.
Devant l'Assemblée nationale, oui. Gérald Darmanin a déclaré que les crimes commis contre les enfants sont une exception au secret de la confession.
Coup dur pour l'Église qui devra donc se rabattre sur les adolescents. Ou pire, des adultes. Ouh là là.
Et dans le Val-de-Marne, le député La République En Marche, Frédéric Decrozaille, a lancé une web-série pour distiller des conseils sur l'emploi.
Et attention, ça envoie du lourd.
Et juste avant d'être élu, j'étais consultant dans un cabinet de recrutement. J'ai vu de près les dysfonctionnements du marché du travail en France. On privilégie l'entre-soi et on manque d'ouverture.
Et oui, et on comprend un petit peu pourquoi Emmanuel Macron a plutôt fait appel à McFly et Carlito pour sa promotion auprès des jeunes.
Une page finance, oui, car oui, Google collabore avec le fisc français pour recenser les piscines non déclarées.
Et c'est la toute première fois que Google collabore avec le fisc français.
Et en économie, suite à une hausse des ventes de 46% depuis le début de l'année, la marque Aigle a décidé de rapatrier la fabrication de ces bottes en caoutchouc en France.
Et oui, et pour une fois, on est content d'entendre le bruit des bottes en France.
Sport maintenant, la FIFA oui. serait favorable à un mondial 2030 en Israël et dans les pays voisins.
Oui, je peux vous dire entre Israël et les pays voisins, on risque moins de s'écharper sur la possession de balles que sur la possession de terrain.
Une page culture, après le dernier festival de musique à Glastonbury en Angleterre, des scientifiques ont décelé des niveaux très élevés de cocaïne et d'extasie dans la rivière toute proche à cause de l'urine du public.
Et oui, les poissons se mettaient à planer. Du coup, les pêcheurs ont acheté des fils à papillons.
Et des brèves.
Et oui, des brèves avec que des rennes. Que des rennes. États-Unis, un renne qui se promenait avec un pneu de voiture autour du cou depuis 2 ans a été libéré. J'imagine qu'il a passé 2 good years.
Ouais, excellent.
Ça mérite une dernière.
C'est par rapport à la marque du pneu.
Elle était très très bien celle-là. À Rennes, du coup, en Bretagne, elle accouche dans un restaurant des pizzas gratuites offertes à vie pour sa petite fille. Si c'est pas mignon ça, eh ben je dis bisous à toute la famille et à la petite Marguerite.
Merci Alex Vizorek.
C'est mignon. Merci. Quelque chose de mignon. Ouais, merci Charlie.
Et on vous souhaite une bonne première ce soir.
C'est ce soir au Théâtre
première
de l'Œuvre.
Première parisienne. Exactement. Théâtre de l'Œuvre, tout à fait. Alors quand on dit classique Juliette Arnault, oui. Il est vrai qu'on pense souvent Honoré de Balzac. Mais pour un mercredi après-midi de Pitchoun, on n'aurait pas pensé directement à Splendeur et Misère des courtisanes.
Vous avez raison, Charline, parce que si je dis Balzac, vous allez me répondre le Père Goriot, et moi je vais vous rétorquer Splendeur et Misère des courtisanes que j'avais choisi jeune fille parmi tous ceux de la comédie humaine sur la foi du titre de la première partie qui est « Comment aiment les filles ?». Je croyais à l'époque qu'en gros, Honoré avait écrit un livre qui allait m'expliquer ma future vie amoureuse à moi, fille. Bon, Le titre de la seconde partie aurait dû m'éclairer puisqu'il est « À combien l'amour revient au vieillard ?» Et puis surtout, j'aurais dû savoir que le terme « fille » au XIXe siècle désigne une prostituée. Pour des raisons évidentes de sécurité, je ne vais même pas ouvrir une mini-parenthèse sur la misogynie intrinsèque de la langue française. Je vais plutôt crier dans ma manche.
Voilà. C'est la grosse bibo, on l'a retrouvée.
Et ça repart. Ouais, je vais plutôt revenir à Spergorio sur lequel beaucoup d'entre nous ont sué pendant nos années de lycée parce que ce livre-ci, Splendeur et Misère, est la suite et la fin du Père Goriot. On y retrouve des tas de personnages, dont Rastignac et le terrifiant Vautrin, dans sensiblement le même monde à la même époque, c'est-à-dire juste avant 1830. Entre le Père Goriot et Splendeur et Misère des courtisanes, il y a Illusion perdue, qu'on va bientôt voir adapté au cinéma, où l'on suit un jeune homme assoiffé de gloire littéraire, de gloire tout court, mais pauvre. Lucien de Rubempré, qui va donc monter à la capitale et perdre ses illusions sur les autres, mais surtout sur lui-même, puisqu'il devient journaliste. Tellement que, quelques mille pages plus tard, il se suicide. Et puis non, finalement, il reste en vie, parce qu'apparaît un prêtre espagnol, je vous l'ai fait courte, hein, qui lui explique que c'est dommage, quand on est si beau, si jeune, si ambitieux, de se donner la mort. Le prêtre espagnol, Carlos de Herrera, lui dit « Obéissez-moi comme une femme obéit à son mari, comme un enfant obéit à sa mère, et je vous garantis qu'en moins de 3 ans, vous serez marquis de Rubempré, vous épouserez une des plus nobles filles du Faubourg Saint-Germain, et vous vous assiérez un jour sur les bancs de la pairie. » Qu'est-ce qu'il fait, Lulu? Bah, il dit oui, moi j'aurais fait pareil. Et alors peut commencer Splendeur et misère des courtisanes, où très vite, la lectrice, le lecteur prend une grosse suée d'effroi en comprenant que le prêtre espagnol n'est ni prêtre ni espagnol, mais, non Guillaume, c'est pas Éric Zemmour, Vautrin, alias Jacques Collin, alias Trempe la Mort, 3 fois évadé du bagne, 2 fois condamné en cour d'assises. Mais qu'est-ce que ce damné de la terre et âme damnée tout court tripatouille avec Lulu? Eh bien, Vautrin veut se venger de la société avec un grand S, du monde avec un grand M, en toute simplicité. Et pour ce faire, il a besoin d'un beau jeune homme, talentueux, mais sans énergie, sans grande volonté. Et ça, Vautrin, de la volonté et de l'énergie, il en a comme 2 brouettes de Lucien. Mmh. Alors en gros, il file une colonne vertébrale à Lucien, Lucien devient son second lui-même. Oui, la petite voix de Fred tout au fond, « Mais dis donc, ça fait pas beaucoup de bons hommes pour un bouquin où il y a le mot courtisane dans le titre. Où sont les filles ?» Doudou, bijou, j'y viens. La fille qui aime, comment aiment les filles, s'appelle Esther et elle est si douée comme fille, enfin comme prostituée, que les noceurs l'ont surnommée, eu égard à sa puissance de feu et très élégamment, la torpille. Mais voilà, pour la première fois de sa vie, Esther aime et elle aime Lucien et il l'aime aussi. Bah c'est super alors. Bah non, suivez, bon Dieu. C'est pas du tout raccord avec le plan de Vautrin qui est de marier Lulu avec une aristocratique demoiselle du Faubourg Saint-Germain. Pas avec une fille, toute torpille qu'elle soit. Mais alors pourquoi y a-t-il un chapitre nommé « Chapitre ennuyeux » car il explique 4 ans de bonheur? Eh ben ça, je vous y répondrai, mais ça sera la semaine prochaine. Merci, bisous, merci. Oh,
Juliette Arnaud, merci.
Et si Balzac dit « Chapitre ennuyeux » lui-même...
mais vous vous savant. Doutez... Mais non, il fait un... Oh là là, il fait un mot, Alex.
Oh là là.
C'est un mot d'auteur. Oh ça là n'est là. Pas du tout ennuyeux.
Oh là là,
c'est parce qu'il n'y a pas de jeu de mots.
Voilà.
Alex est perdu.
Exactement. Merci, Juliette Arnaud. On peut réécouter vos chroniques en crotte-cast, si on veut. Voici de quoi animer le goûter d'anniversaire du mercredi après-midi, Alex.
Et oui, voilà un Français qui plairait à Macron, car avant, il ne travaillait que les vendredis. Voilà. Et il est beaucoup plus productif depuis la rentrée. Il ajoute parfois les mercredis, c'est Frédéric Fromet.
Eh oui, alors attention, double actu, l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman et les dernières révélations scientifiques de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, à savoir... une vidéo pour montrer ce qu'il bouffe. Il filme un bout de pain dans la station pour attirer les gogos, les pigeons. Il filme un sachet de bœuf bourguignon. Il aurait dû bosser pour Marmiton. Carottes au cumin, pommes de terre au thym, tomates artichauts, crêpes et risotto, filochet de volaille, escargot à l'ail. Le mec faut rien de son séjour, à part surveiller le four. Je raille et je bouffe, mais y a pas que la bouffe. Il se fait tellement chier qu'il prend cliché sur cliché, des centaines de photos.
de la terre vue d'en haut. Quand c'est pas un selfie, car il est très content de lui. Il publie à toute heure sur son compte Twitter, sur Facebook, Instagram, il est pire qu'un spam. Il est partout à bloc, sur Snapchat et TikTok. Il est moins un astronaute qu'un putain d'internaute. Il fait son malin dans la station, il prend la pause dans sa combinaison. En lisant Marguerite Duras pour une dictée géante depuis l'espace. Il accomplit sa mission spatiale juste pour raconter sa vie qu'il étale. Il trouve même le temps de bavarder en visio avec Kylian Mbappé. Il se fait des copains depuis la station, y'a que pour papoter qu'il est champion. Cosmos, il a fait Roland Garros, plus rien nous étonne, il a fait le téléphone sonne. Comme il adore les flatteries, il rêve d'aller chez Nagui, mais vois pas ce qu'il pourrait faire ici dans par Jupiter. Soyons moins rigoristes avec notre touriste, notre gendre idéal, intersidéral. Les fachos ont la rage contre les gens du voyage, pour une fois qu'il y en a un, que la majorité aime bien. N'empêche qu'il fout rien dans la station, ça fait vraiment cher la récréation.
Merci Frédéric Frobé. Et donc on n'invitera jamais Thomas Pesquet, c'est réglé, et puis Jean-Jacques Goldman non plus, et comme ça, ça permet d'éclaircir un petit peu les invités potentiels.
Ça fait de la place, hein.
Frédéric Frobé, merci. Et tiens, il y a Arthur Junior en notre compagnie. Je rappelle que vous avez coécrit et mis en scène Le mystère de l'aviateur de Saint-Exupéry, qui se joue au théâtre du Splendide. Et Alex, vous avez vu cette pièce?
Moi, je l'ai vu à Avignon, il jouait juste avant moi, et je suis allé la voir, et j'ai découvert plein de choses sur Saint-Exupéry, notamment qu'il s'était craché plusieurs fois.
Maintes fois.
Mais oui, en fait, il était pas bon en avion.
Alors, je crois vraiment qu'à l'époque, on est vraiment sur des appareils
rudimentaires.
Voilà, on n'est pas encore au top de la technologie. Je suis pas sûr que Pesquet serait resté longtemps en apesanteur.
Non, mais c'est intéressant de découvrir l'homme derrière ce nom qu'on voit plaqué sur ce petit prince.
Non, mais il a fini avec un bras mutilé, il pilotait avec un seul bras, il voulait piloter à tout prix. La France, à un moment, a dit non, tu piloteras plus, il est parti aux États-Unis. Non, mais sa vie est dingue. À 12 ans, il a pris l'argent des courses de sa mère, il est allé se payer un baptême de l'air dans un aérodrome sans le dire à sa mère. Enfin, c'est-à-dire que sa vie est absolument dingue.
Voilà. Et sur base de tous les documents qui ont suivi l'histoire de la gourmette et de retrouver l'avion, etc., que vous avez lu, décortiqué, analysé, vous en avez fait un récit théâtral.
Oui, en fait, on a parlé d'une famille aujourd'hui qui s'entend pas bien, un père et son fils qui s'entendent pas bien, et sur la transmission, et ce père essaye d'enlever un téléphone de la main de son enfant. S'il y a des gens qui ont des enfants ici, c'est compliqué de dire ça. Et à la manière de quelqu'un qui aujourd'hui raconterait l'histoire d'Indiana Jones en disant, non, écoute, arrête avec Instagram deux secondes, je vais te raconter une histoire incroyable. Et voilà, grâce à cette histoire, moi, ce qu'on voulait faire avec Félix, c'était de dire, voilà, Saint-Exupéry, il y a son œuvre, mais avec sa vie, on peut aussi changer des vies et transmettre quelque chose, parce que c'est absolument passionnant.
Un Jupiclas avec Arthur Junior et une troupe.
Mais oui, Arthur, qu'on l'entendra tout à l'heure, tout comme Marina Chiche. On a déjà entendu Juliette Arnaud, Laurence Bibot et son double maléfique, Frédéric Fromet et sa guitare. Mais avant tout cela, il nous reste celui que Laurence Bloch, notre directrice, appelle affectueusement le caillou dans la chaussure, pour ne pas dire le pavé dans la louboutin. C'est Guillaume Meurice.
Cœur sur son burn-out. Alors, les petits pipis. Dans ce Par Jupiclas, je vais vous parler de votre avenir. Avenir qui s'écrit, je vous le rappelle, c'est H-O-M-A-G-E. Hein, c'est important l'orthographe, car oui, les enfants rares sont les privilégiés qui auront la chance d'accéder à la magie du travail à la chaîne, hein, comme le dit si bien Tati Agnès. Tati Agnès, dont on attend avec hâte la prochaine visite dans une usine. Hein, le catch étant trop rare de nos jours à la télévision. Bref, le problème du travail est une préoccupation majeure. Vous le savez, cousin Manu, du haut de son complexe de supériorité, a dit qu'on ne travaillait pas assez. Il a même dit très précisément que le français moyen était juste une sorte d'Alex Vizorek qui recopie Yahoo Insolite pour écrire ses blagues. Fin de citation. Cousin Manu, il veut une réforme de l'assurance chômage, qu'on arrête de payer les gens à rien foutre. Roselyne Bachelot s'est dite très inquiète pour la suite de sa carrière. Alors, les pitchounes, pour vous expliquer tout ça et faire un point sur la situation, je suis allé demander évidemment au peuple des Lumières, un peuple qui a donc la vie éclairée, mais un peuple de feignants.
Ouais, on est un peuple de feignasses, ouais. Il y en a 10% qui vont bosser comme des chiens et 70% qui vont bosser normalement, modérément, et non, 70% qui ne bossent pas du tout, presque, et qui touchent aussi bien que ceux qui bossent. Quoi.
Alors attendez, est-ce qu'on est sûr des chiffres là ?
Ouais. Ouais, ça a l'air d'être carré. Ça, je préfère toujours demander quand même. Hein. C'est une chose que vous pouvez faire, les pitchounes. Dès que vous voulez des vraies infos, des vrais chiffres, ben vous allez dans la rue. Voilà, et souvent on tombe sur des gens qui ont vraiment les vraies statistiques. Vous voyez, ça c'est peut-être un charcutier traiteur qui, à la fin de sa journée, ben, il va éplucher les stats de l'INSEE. C'est du travail. Voilà, ce monsieur, il adore le travail. Donc j'ai continué sur les feignants.
Est-ce que les actionnaires, c'est pas des feignants aussi ?
Les actionnaires ?
Ceux qui gagnent de l'argent sans rien faire finalement.
Bah non, ils sont intelligents. Ils sont pas feignants, ils sont intelligents.
Ah bah oui, mais ils foutent rien quand même.
Bah ils ont investi de l'argent.
Ouais.
Donc ils ont pris des risques. Ils font travailler leur argent. Mais l'argent, il est pas arrivé du ciel, hein. Il l'a gagné son argent.
Ah bah des fois ils l'ont hérité par exemple.
Ah bah après c'est encore autre chose.
Ouais, mais alors est-ce que c'est du mérite ça de gagner de l'argent parce que ses parents ont travaillé ?
Oui.
Oui, c'est le mérite d'avoir des parents riches. Il faut se battre dans la vie, les pitchounes, pour avoir des parents riches. Arnaud Lagardère, il disait à son père, mais bouge-toi le cul ! Ouais, si vous voyez vos parents glander sur le canapé, il faut leur dire, secouez-vous les miches, je veux mériter le fait de rien foutre. D'ailleurs, pourquoi vos parents ne bossent pas ?
Bah, parce qu'ils sont confortablement installés chez eux et que bah, le 30 du mois, ils ont... 3 clics à faire sur ANPE et bah, ils touchent le premier du mois ou le 2 du mois, ils sont virés 600, 1000 euros, 1200 euros.
Bon, c'est la belle vie alors d'être chômeur.
Ouais, aujourd'hui, oui, c'est la belle vie d'être chômeur.
Pourquoi vous n'êtes pas chômeur ?
Ah, parce que c'est pas dans ma mentalité.
Ah, mais voilà, les pitchounes, le chômage, c'est une mentalité. La précarité, c'est dans la tête. Vous voyez, tout ça, c'est mental. C'est comme en sport. Voilà, pour gagner une compétition internationale. Bon, là, je m'adresse pas à cette partie de la table, parce que c'est vrai qu'il n'y a que des Belges. Bah, pour gagner, il faut le mental, vous voyez, et un arbitre aveugle. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est les gens qui glandent.
Un jeudi midi à 14h. Et que tu vois des jeunes de mon âge en terrasse en train de prendre un café un jeudi à 14h. Quand t'es jeune, tu travailles.
Mais s'ils n'ont pas de travail, s'ils sont au chômage.
C'est Macron qui a dit si tu traverses la rue, tu trouves du travail.
Peut-être que c'est les gens qui étaient en face et qui ont traversé la rue pour venir sur la terrasse. Et finalement, il n'y avait pas de travail et du coup, ils sont assis pour un café.
Je sais pas non plus. Je pose des questions. Hein. Moi, j'essaye voilà, de questionner. Je fais un peu le mec de gauche. Voilà, c'est un petit peu mon rôle parce que c'est vrai qu'entre Dominique Seux et De Vecchio, si on ne fait pas un petit peu ça, nous, dans 3 semaines, on est CNews. On est sur radio. Voilà, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et c'est vrai que vous les voyez, les jeunes voilà, qui boivent du café à 14h. Ça sent la fin de la civilisation. Ils parlent d'islam. Souvent. Je suis bon ou pas ? Ah ben non, merde, j'ai fait la merde, pardon. Non. Bon, alors, continuons en tout cas, les Français, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les enfants gâtés.
Non, les Français ont tous les droits et aucun devoir. Je pense qu'il faudrait peut-être remettre le travail au bout du jour, que c'est normal. On se refuse à regarder la réalité en face et il n'y a que la notion de profit qui intéresse les gens, les Français en particulier.
Alors là, vous parlez plutôt du côté des salariés ou des patrons ?
Non, je parle du côté des salariés.
Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Les pitchounes, ce sont les salariés qui pensent qu'à la thune. C'est qui demande les augmentations ? Ah, c'est les salariés. Ils dépensent tout. Souvent, le 5 du mois, ils n'ont plus rien. Ce sont des mauvais gestionnaires. Donc, ils en veulent toujours plus. J'en discutais avec un mec qui faisait du marteau-piqueur toute la journée. Il me disait, oui, je suis mal payé. Mais je dis, mon vieux, mais t'as déjà du travail ? T'as déjà de la chance d'avoir du travail ? Et non, je ne te rendrai pas ton passeport. Profite de cette magie. Elle a raison, cette dame qui veut que tu travailles encore plus longtemps. Jusqu'à quel âge ?
67 ou 68.
Ah oui, carrément 68 ?
Bah oui, attendez, à partir du moment où l'espérance de vie est plus longue...
Dans toutes les professions ?
C'est ce que je pense, qu'on pourrait relever un peu plus les manches et arrêter de se regarder le nombril.
Mais voilà, je lui ai dit au mec du marteau-piqueur qui était comme ça, il regardait son nombril, la tête baissée, terrible. Ouais, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Les pitchounes, vous retroussez les manches pour monter par exemple une entreprise de plan de chat pour les envoyer tous bien se faire cuire le cul.
Merci Guillaume Meurice. Ah, j'ai hâte que vous fassiez le tour des écoles pour éduquer tous les pitchounes. Alors, on va passer aux exercices,
bien
les amis.
Sûr.
Alex ?
Eh bien, bien sûr, Pécresse, Bertrand, Barnier, Ciotti, Juvin, on est tous à fond, à bloc, très excités à l'idée de ce congrès LR qui désignera le candidat Les Républicains. Mais comment vont-ils le choisir, ce candidat ? Quatre réponses possibles. A. Pour gagner du temps, il sera directement choisi par la justice. Et pourquoi pas? À la courte paille, un peu comme les chroniqueurs de cette émission, c'est par un bingo organisé à l'EHPAD des Mimosas pour aller au plus près des adhérents, aidé par un algorithme très puissant et précis commercialisé par Big Malion.
Pas facile. Alors vous savez, le dernier compagnon de la Libération est mort hier à l'âge de 101 ans. Il s'appelait Hubert Germain et il faisait partie des 1038 compagnons de l'ordre de la Libération. Alors pourquoi avait-il reçu ce titre de compagnon de la Libération? Petit A, parce qu'entre 40 et 45, il a vaillamment résisté à la campagne de vaccination contre la grippe. Petit B, parce qu'il a longtemps résisté à l'usage de jeux de mots à la une de Libération. Petit C, parce qu'ils étaient déjà comblés chez les compagnons de la chanson. Petit D, parce qu'il fut l'un des premiers à rejoindre le général de Gaulle à Londres et à répondre à son appel à la résistance.
C'est pas simple.
Mais bon, la pitchoune, hein, c'est...
Moi, je vais rester sur le thème que j'abordais à l'instant. Emmanuel Macron a déclaré que la France était un des pays qui travaille le moins. Alors, petit exercice, parmi les infos suivantes sur le travail, lesquelles sont vraies? Réponse A. Proposition A. Dans les usines françaises, on ne travaille pas, on fait de la magie. Hein. Proposition B. On a déjà vu un technicien de France Inter travailler une heure entière. Il faut des trucs un peu pas crédibles aussi pour aider les pitchouns. Proposition C. Entre les livres de Bruno Le Maire, de Jean-Michel Blanquer, de Marlène Schiappa, on réalise que le boulot de ministre laisse quand même pas mal de temps libre. Proposition D. Entre Par Jupiter, son émission Pastèque, Télématin, Vivement Dimanche, son spectacle, les galas, la fête de la saucisse de Noirmoutier, l'animation de l'anniversaire de sa tante Jocelyne, Alex Vizorek travaille 24 heures par jour.
Il y a deux bonnes réponses.
Que vous pourrez consulter sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les chroniques et les bêtises, etc. Alors, voici celle qui a été invitée à jouer, chers amis, sur la frégate Courbet. Parmi les marins. Si, elle en a fait une story, donc je peux le dire.
Oui, c'est public.
Voilà. Il paraît que les marins de la frégate Courbet nous écoutent. Donc, on les salue.
Changer de métier quand même, hein, mais on les salue.
Voilà. Mm-hmm. Et elle nous propose son cours de musique. Voici la violoniste virtuose qui emballe les marins, Marina Chiche.
Ah, vous avez des infos qu'on n'a pas vues sur Instagram.
La story, j'ai pas vu celle-là.
On parle musique, Marina Chiche. Concentrez-vous, ça va être technique aujourd'hui. Alors, c'est une chronique un peu exceptionnelle parce que je vais répondre non pas à une question, mais à un appel à l'aide reçu sur la messagerie de l'émission.
Oh yeah. L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Tornère qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette.
Alors, ce n'est pas le chanteur Antoine qui nous a écrit, mais c'est Amandine qui me dit « Aidez-moi, ma fille a voulu commencer à jouer de l'accordéon. En bonne maman bienveillante, je l'ai laissé faire. Mais à chaque fois qu'elle en joue, j'ai des images de Marielle Chazelle dans Les Visiteurs qui demandent de la monnaie ou d'Yvette Horner avec ses cheveux rouges. J'ai peur de ne jamais être grand-mère. Pouvez-vous m'aider à trouver ça cool ?» Alors, c'est vrai qu'au niveau look, Yvette Horner, ça envoyait du lourd. Cheveux rouges, leggings, tenue bleu, blanc, rouge. Une sacrée accordéoniste qui a fait danser la France entière, notamment sur le Tour de France, et qui était habillée par Jean-Paul Gaultier, s'il vous plaît. Le combo baguette-musette Yvette a longtemps fait rayonner la France. D'ailleurs, l'accordéon, c'est un instrument qui a été très prisé à la tête de l'État aussi.
Ce qui fait qu'il me reste du temps pour pratiquer mon violon dingue.
Oui, mais ce violon dingue, en fait, ce n'est pas du tout un violon.
Ah, c'est mieux qu'un violon, oui. C'est un accordéon. Vous voulez peut-être que vous en jouez un petit...
Oui, je veux bien. Nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon, qui est d'ailleurs un petit accordéon.
Oui, hein. Petit accordéon pour Valérie Giscard d'Estaing et ses mains baladeuses sur l'accordéon uniquement.
Bien sûr.
Alors, un peu de sérieux. À quelle famille d'instruments appartient l'accordéon?
Instrument à vent.
Avant. Ah, mais maîtrise. Vous allez regarder mes copies.
C'est la culture. Ça,
voilà,
madame.
C'est vrai que les bretelles, c'est votre rayon. Donc, on dit ça à un piano à bretelles d'habitude. Et effectivement, c'est un instrument à vent de la famille des bois, comme les hautbois, clarinettes, bassons, parce que le principe de production du son sur l'accordéon, c'est la mise en vibration d'une hanche. Une hanche, hein, pas une hanche. Bon, c'est une lamelle qui vibre. Donc, il s'agit d'une hanche libre qui est fixée d'un côté et libre de se déplacer autour de sa position de repos. Elle est excitée par un vent fourni par l'arme fatale de l'accordéon, le soufflet. Donc le soufflet, ça permet de varier la pression de l'air et de moduler les nuances. Bon, il y a plusieurs types d'accordéons, c'est un peu compliqué, des diatoniques, des chromatiques, certains avec des touches, d'autres avec des boutons. Mais en fait, le fonctionnement, c'est assez simple.
C'est l'instrument de l'alternance politique par excellence, comme le disait Raymond Devos. Quand tu appuies à droite, ça souffle à gauche. Quand tu appuies à gauche, ça souffle à droite. Et au milieu, c'est du vent. Au niveau du répertoire, on navigue entre un fort ancrage populaire et folklorique et la musique dite savante. On peut jouer beaucoup de transcriptions, des pièces écrites à l'origine pour le clavecin ou le piano. Par exemple, la musique baroque, Bach ou Scarlatti. Il y a aussi de la musique contemporaine, écrite exprès pour. Mais, le style qui colle encore à la peau de l'accordéon, pour le meilleur et pour le pire, c'est le style musette. Celui de la musique de bal, la musique à danser. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. Chauffe Marcel Jean. Eh oui, Marcel Azola avec Jacques Brel. Mais bon, aujourd'hui, pour vendre du rêve à Amandine et la convaincre que l'accordéon, c'est cool, je ne l'emmène ni à Vierzon ni à Vesoul, mais je l'emmène en Argentine avec Astor Piazzolla. Piazzolla, c'est le roi du tango nuevo. Il écrivait notamment pour son instrument le bandoneon, un instrument de la même famille, et ça se joue très bien à l'accordéon. Marina Chiche, bouleversante musique d'Astor Piazzolla, jouée par l'accordéoniste Richard Galliano. Voilà ce que pourra jouer votre fille, Amandine, peut-être un jour plutôt cool, non? Alors la pièce s'appelle Oblivion, l'oubli. Oui, il y a des choses qu'il faut savoir oublier, n'est-ce pas Alex Vizorek? D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Si les Belges, comme Jacques Brel, se moquent un peu de la musette, si française, voire franchouillarde, c'est parce que dans musette, il y a muse et muse en verlan, ça fait presque seum.
Oh là là,
ah, oh, c'est oui. Pas nécessaire.
Ouais, si, ça si, va se payer si, tout si, ça, si, ça si. Va se payer. Merci Marina Chiche. Et je rappelle que si vous avez des questions sur la musique classique, envoyez-les à Marina Chiche sur la boîte mail de notre émission, donc par jupiter@radiofrance.com. Et ça deviendra peut-être une chronique comme l'email d'Amandine auquel vous avez répondu, Marina.
La semaine prochaine, elle fait le tambourin. Passionnant.
Voici le moment de la Jupi Masterclass de cinéma. Et elle vous est proposée aujourd'hui par notre camarade Arthur Juniau.
Mais merci, bonjour à tous. Alors on m'a donc proposé de faire une chronique sur un chef-d'œuvre du cinéma. Alors pour être parfaitement honnête, j'ai tout de suite pensé à American Ninja 2. Donc, alors le problème c'est que j'ai appris fortuitement que Monsieur Poulpe avait déjà fait sa chronique sur cette pièce maîtresse du 7e art. Donc quel choix pouvait-il bien me rester ? J'ai donc décidé de vous parler d'un autre film, un film qui m'a marqué. Peut-être même un peu trop. Alors j'ai toujours rêvé de me faire psychanalyser par Juliette Arnault. Donc j'avais 6 ans, j'écoutais déjà les chroniques de Juliette Arnault. Et ma maman me dépose chez une de ses très bonnes copines qui gardait une nièce à elle pour une soirée pyjama. Elle me dépose donc, espérant pouvoir passer une nuit de folie avec un amant belge. Ma mère a eu toujours très bon goût. Ou tout au moins passer une soirée peinard sans son monstre de fils et se taper une bonne grasse matinée. Donc Géraldine, la copine à ma mère, comme disent les gens instruits, est vraiment super. C'est une chouette fille et elle a très envie de nous faire plaisir à nous, les mioches. Elle nous a donc préparé une surprise et elle est allée louer une vidéo cassette. T'aimes les vidéos ? T'aimes le futur ? Bienvenue chez Vidéo Future. Portez bien son nom. Donc on mange notre repas qu'elle nous a préparé avec amour. Un repas exclusivement à base de frites. Oui, je vous l'ai dit, Géraldine était vraiment super. Et elle nous installe devant un énorme écran cathodique, insère la vidéocassette et appuie sur play. Super idée. Super idée. Alors je mets un petit extrait du film.
Mais la règle la plus importante, la règle que vous ne devez jamais oublier, même s'il pleure, même s'il vous supplie, ne jamais, jamais lui donner à manger après minuit. Vous avez compris ?
Oui, oui, tout ce que tu veux. Je te remercie. Et je te souhaite un joyeux Noël.
Ouais, joyeux Noël. Vous avez tous deviné, bien sûr. Il s'agit des Gremlins. Alors, ce film m'a marqué parce qu'en fait, il m'a traumatisé. Il a fait de moi un pleutre, un quoi, un pusillanime. Pardon Alex, j'ai cru une seconde que j'étais chez Stéphane Bern. Bref, il a fait de moi une couille molle. Alors pour les 3 auditeurs qui auraient vécu en hibernation pendant ces 40 dernières années et qui n'auraient jamais entendu parler de ce film, du Covid, de Netflix ou du pain sans gluten, en gros c'est l'histoire d'un petit chaton trop mignon, genre le chat dans Shrek. Tu lui donnes un kebab après minuit ou tu lui pisses dessus et il se transforme en Éric Zemmour. Alors, non mais attention, non mais en Éric Zemmour qui se clone partout, hein, qui en plein de petits zémouriens comme ça, tac, tac, qui brûle tout sur son passage, qui met la ville à feu et à sang et qui rebaptise tous ceux qu'il ne tue pas en Jean-Claude. Alors, non, bah alors j'ai conscience que c'est un résumé un poil grossier du film, mais néanmoins assez réaliste. Alors l'auteur, Chris Columbus, à qui on doit aussi les Goonies, ma deuxième psychanalyste, enfin bon bref, il raconte qu'il a inventé les Gremlins, ces personnages, parce qu'ils vivaient dans un appartement miteux qui grouillait de souris, et dès qu'il était dans le noir, les rongeurs sortaient, lui faisant la misère. C'est ses propres mots. On se demande pourquoi il n'y a pas plus de Parisiens qui écrivent de bons scénarios. Non, le film est produit par un homme dont j'avais jamais entendu parler, donc j'ai fait des recherches, oui, parce que moi je bosse quand on me demande de faire une crinique. C'est un certain Steven Spielberg.
Ah.
Et, ouais, et donc, pour la petite anecdote, la ville fictive de Kingston Falls, où se déroule l'histoire, ressemble comme 2 gouttes d'eau à Hill Valley.
Dans un film de Spielberg.
Voilà. Hill Valley. Alors, Hill Valley, ça ne dit rien à personne.
Presque.
Il n'y a pas d'experts de cinéma. Il y a des experts. Hill Valley. Alors, je vous donne un petit indice.
Ouais.
Nom de Dieu.
Retour vers le futur.
Évidemment. C'est Retour vers le futur. Alors, si vous regardez les 2 films à la suite, c'est incroyable. C'est à s'y méprendre. C'est-à-dire que Steven Spielberg a produit les 2 films. Mais en fait, dans le même décor. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Il y a 2-3 coups de peinture. Donc Steven, je l'appelle Steven, a inventé la mutualisation des coups. Mais quel crevard! Mais quel génie! Enfin bref, j'ai tellement eu peur quand j'ai vu ce film que ma mère a été obligée de venir me chercher en pleine nuit pour me ramener à la maison. Je vous jure que c'est vrai, c'est une anecdote vraie. Et que j'ai dormi dans son lit.
C'est vraiment c'est super d'avoir des enfants. Enfin voilà, la morale de cette histoire, c'est que les Gremlins, c'est comme Zemmour. Ça fait peur, ça vieillit mal, mais il faut surtout pas le mettre à la lumière. Merci beaucoup.
Arthur Junio, merci beaucoup Arthur.
Mais merci à vous.
Et je rappelle qu'on peut aller voir la pièce de théâtre que vous avez coécrite et que vous mettez en scène, Saint-Exupéry, Le mystère de l'aviateur. C'est au Théâtre du Splendide en ce moment, à Paris.
Et il va garder le décor. Il y a une pièce sur Louis Blériot qui arrive bientôt.
Allez, on passe au dessin qui est plutôt un geste inspiré par Jérôme qui nous a écrit parce qu'il n'a pas la télévision, mais qu'il s'acquittera volontiers de sa redevance si elle contribue à financer nos blagues et par Jupiter. Alors, fais comme Jérôme et colle un post-it sur le document des finances publiques qui réclame la redevance. Un post-it où tu déclares que tu es ravi que tes petits sous servent à financer les blagues de Par Jupiter et de France Inter. Je propose que tu la prennes en photo et que tu la postes sur tous les réseaux avec le hashtag Par Jupiter. Moi, j'ai mis un cœur avec Devecchio. Je vais mettre un cœur avec Par Jupiter. N'hésitez pas, hein, c'est de ce qu'on appelle de l'activisme LOL. Et celui-là, normalement, on devrait moins avoir de grosses emmerdes. Oh, on verra bien. Merci beaucoup à tous les amis. Je vous dis à demain. Nous recevrons Cécile Mestre-Chabrol, la fille de Claude Chabrol et de la grande famille du cinéma. Donc.
C'est quoi ça comme famille? C'est des communistes?
Un peu, oui, bah si. Oui.